Merci de nous accueillir là pour donc un entretien autour donc de cette série de petits films de 26 minutes autour de la photographie qui vont passer actuellement sur Arte. Alors comment est venue cette idée?
Comme tous les projets, en fait, celui-ci a une histoire assez compliquée. Parce que il y a d'une part un film que j'ai fait il y a très longtemps, ça va faire bientôt 20 ans, qui est un film sur Nadar, qui s'appelle Nadar Photographe, qui m'avait beaucoup passionné à l'époque, un peu pour les mêmes raisons que la collection photo, c'est-à-dire à quel prix est-ce qu'on peut faire des films sur la photographie, pourquoi les faire, comment les faire, alors que la photographie n'a pas besoin du cinéma pour exister. Donc ça, c'est une question qui m'intéressait beaucoup. Et donc j'avais ce film-là qui m'avait passionné à l'époque. Et puis, bien plus tard, donc je crois en 2008, Luciano Rigolini d'Arte, avec qui on fait déjà la collection architecture, hein, avec les films d'ici à Charles Coppens, Luciano m'a appelé, et Luciano était dans une espèce de deuil de contact. Collection qu'ils avaient arrêtée, qui est une collection magnifique, absolument passionnante, très très belle idée et tout. Et il m'a dit, ça faisait des années de toute façon qu'il me le disait, mais comme ça un peu, hein, il faut qu'on refasse quelque chose sur la photographie, etc. Et puis donc il m'a appelé en 2008, je crois, 2008 ou 2009, je ne sais pas, en me disant, voilà, je veux que tu conçoives un truc sur la photographie à partir d'une espèce de cadrage initial fait par Quentin Bajac, qui à l'époque était le conservateur en chef photo Beaubourg, qui maintenant est au MoMA. Donc Quentin a proposé une espèce de découpage thématique. Luciano m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, etc. L'idée, c'était de prendre les grands mouvements de l'histoire de la photographie, ce qu'on a fait à peu près, voilà. Donc, on a fait une espèce de séquençage comme ça sur les mouvements incontournables. Et puis voilà, ça commence comme ça, ça commence un peu bêtement, ça commence toujours de façon très spéculative, parce qu'en fait la demande de Luciano c'était, est-ce que tu peux imaginer quelque chose qui m'intéresse? Donc si vous voulez, ça se passe comme ça, hein, donc il me dit, est-ce que tu peux imaginer quelque chose, tu peux concevoir quelque chose, sachant qu'à ce moment-là, on est dans un processus purement spéculatif, qu'on n'est même pas sûr qu'on fera un pilote, ça commence vraiment par de la conception. Quoi. Voilà. Et moi, je lui ai dit oui, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Moi, la photographie, c'est quelque chose qui me détend. En fait, j'ai un photographe amateur totalement ringard, mais c'est une zone où j'ai toujours beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai commencé à réfléchir, et j'ai commencé à réfléchir surtout sur les mêmes questions que je m'étais posées en 1995, c'est comment est-ce qu'on peut prendre une image fixe et la transformer en objet de cinéma. Comment on peut la ramener dans la dynamique et dans l'énergie filmique tout en la respectant. C'est ça le vrai problème. Tout en respectant son intégrité. Et je suis arrivé très rapidement à la réponse. Si vous voulez, il faut voir, hein, en 2009, ce type d'approche, c'est-à-dire l'idée d'utiliser des outils graphiques et de les utiliser de façon assez brutale et assez frontale, n'était pas du tout répandu. C'est-à-dire aujourd'hui, les techniques d'animation et les techniques d'animation couplées avec une approche graphique sont devenues quasiment un standard dans les démarches documentaires. En 2009, ce n'était pas le cas. C'était vraiment quelque chose de une autre approche. Et donc, j'ai commencé à imaginer un système graphique qui permette de remettre les photographies en jeu, de jouer avec. Et et de libérer cette espèce d'énergie latente que contient chaque image. L'idée, c'était... Mais c'est la même chose que ce que je fais avec l'architecture. Hein. Ça, c'est toujours la même obsession. C'est que dans les objets ou dans les images fixes, il y a une énergie cristallisée et qu'on peut trouver des systèmes ou des outils pour la libérer le temps de l'illusion filmique. Hein. Évidemment, on parle de cinéma, donc... ça tient plus à des opérations de prestidigitation.
Le cinéma fait vidéo, en fait.
Non. Moi, je continue à appeler ça des films.
D'accord.
Pour moi, c'est des films. C'est construit comme des films. Mmh. C'est pensé comme des films. Mmh. Et avec des interdits, en fait, formels qui viennent du cinéma. Hein. Pour moi, de ma conception du cinéma. Mmh. Par exemple... Dans une collection comme ça, donc on a un travail graphique sur les images, on est assez strict sur ce qu'on appelait autrefois les opérations de banc-titre. Je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, parce que la technologie a complètement changé. Hein. Mais si vous voulez, si je reprends ça autrement, le standard... Alors, heureusement, il y a des films qui échappent, hein, pas seulement les nôtres, mais le standard du film sur la photographie, ça consiste à prendre les images et ensuite à les utiliser comme de la chair à canon pour fabriquer de la télévision, hein, en gros. Je ne donnerai pas d'exemple, mais ça, dans les productions récentes, y compris d'Arte, il y a plein de films qui fonctionnent comme ça. Et on prend la photographie et puis on la découpe... faire en faisant des gros plans, des plans larges, des plans serrés, en zoomant, en travelingant, etc. Et la photographie elle-même devient une espèce de bouillie qui sert à alimenter la machine. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose que je me suis toujours interdit de faire. Déjà à l'époque de Nadar, c'était un interdit pour moi. J'avais écrit un texte à l'époque en disant qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la surface de l'image photographique comme si c'était une patinoire pour faire ces gammes. Hein. Donc il y a un certain nombre d'effets d'écriture justement qu'on s'interdit. Par exemple, l'idée de se promener dans l'image, comme si c'était... voilà, on s'interdit ça. On évite au maximum le zoom, le truc, on parle du détail, on élargit, etc. Et on essaye de travailler avec des outils qui apparemment ont l'air plus brutaux, mais qui en réalité sont beaucoup plus respectueux de l'intégrité de l'image photographique, c'est-à-dire des outils de découpage. Découpage au sens cinématographique, hein, voilà, mais aussi découpage au sens on a des ciseaux et on découpe. Donc voilà.
Je n'ai pas vu encore la totalité donc des douze films. Vous commencez donc au début, on a vu, je crois, le premier film de Juliette Garcia.
Juliette Garcia, c'est les inventeurs.
Oui. Voilà, et ça s'arrête dans le temps où vous venez vraiment lécher la plage contemporain, enfin, l'actuel.
Oui, bien sûr, on a une courbe comme ça, plus ou moins maîtrisée, parce qu'après ça pose d'autres difficultés de découpage conceptuel. Mm-hmm. Hein, mais on a une courbe plus ou moins maîtrisée qui part de l'invention, qui passe par l'extraordinaire décennie de ce qu'on appelle les primitifs, 1850-1860, qui est un moment absolument étonnant dans l'histoire de la photographie. Après, on a encore un truc au seuil du 19e et du 20e sur le pictorialisme, ce que Bajac appelle très joliment la révolution à rebours, hein, pour ne pas dire la révolution conservatrice. Et après, on avance, c'est-à-dire on a ce moment que moi j'aime énormément de la photographie moderne des années 20-30, le surréalisme, la photographie surréaliste. Après, en fait, on a un trou. Et c'est bizarre parce que c'est là qu'on s'aperçoit à quel point... une collection comme ça reflète aussi des partis pris individuels et singuliers. On a un trou sur la photographie, ce qu'on appelle la photographie humaniste, disons, qui irait de 30 à 60. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a, on n'a jamais trouvé l'énergie de s'attaquer à ça frontalement. On a évidemment Cartier-Bresson, Brassailles, etc., qui apparaissent dans les autres films, mais on n'a rien fait sur ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Kertész, etc., et tous apparaissent à un moment donné, par exemple, dans ce réalisme. Et après, alors, on saute à pieds joints dans aujourd'hui, la nouvelle objectivité allemande, c'est-à-dire tout le mouvement qui part des Becher, qui va jusqu'à Gursky, le mouvement appropriationniste, la photographie conceptuelle. Donc tout ça, c'est des mouvements, disons, qui prennent leurs racines dans les années 70, mais qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui. Un film ultra contemporain qui s'appelle Après la photographie, qui est fait aussi par Juliette. Alors j'ai lu un truc assez rigolo sur un blog où quelqu'un dit je redoute de le voir celui-là. Je redoute de voir Après la photographie, parce qu'on va encore nous parler de la fin de l'argentique. Et en réalité, Après la photographie, les deux tiers du film sont consacrés à la manière dont les gens se servent de l'argentique aujourd'hui. Et au retour aux techniques artisanales, aux techniques pigmentaires, aux chambres obscures, etc. Très, très beau film de Juliette. Et à côté de ça, on a... des films qui, je crois qu'il y en a trois, qui sont des films transversaux. C'est les trois films d'Alain, en fait, fait par Alain Naoum, qui sont des films transversaux, c'est-à-dire ce ne sont pas des grands mouvements historiquement repérables, ce sont plutôt de grands courants qui traversent l'histoire de la photographie. Donc la photographie de l'intime, la mise en scène et la presse, la relation entre les grands photographes et les support de diffusion de masse. Voilà. Donc c'est un tableau assez complet, c'est une collection bizarre. Dans la collection architecture, on est à plus de... je crois qu'on arrive à 60 films aujourd'hui qui sont des monographies. Dans la collection photo, on est à 12. À mon avis, on pourrait aller à 14-15, mais pas tellement plus loin. Pas tellement plus loin. À cause de ce parti pris-là. Alors, derrière ça, évidemment... il y a quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas uniquement de faire des films d'érudition ou de vulgarisation culturelle. Il y a aussi une volonté de notre part constante, et quand je dis de notre part, c'est-à-dire à la fois Luciano, Quentin Bajac, moi, Juliette, Alain, de réfléchir sur l'image photographique. Ça, c'est... Sinon, on ne l'aurait pas fait, sinon ça ne vaudrait pas le coup. C'est juste pour faire... m'amuse avec les images, et de réfléchir à l'endroit qui est le plus douloureux, qui est qu'est-ce que c'est la vérité de l'image photographique, quelle est la relation réelle. Et ça, c'est un fil conducteur qui, d'une certaine manière, court à travers tous les films. Voilà, donc c'est un peu, c'est un objet comme ça, un peu bizarre. Moi, je pense que, si vous voulez, ces films-là, c'est un peu comme ce qu'on fait avec l'architecture. Ils ne visent absolument pas à se substituer aux photographies elles-mêmes, à l'expérience de la photographie elle-même dans le livre ou dans l'expo. Encore que c'est Cartier-Bresson qui disait ça, qu'on ne devrait pas les exposer, qu'on devrait juste les revoir dans les livres.
Dans les livres, moi, je suis assez bon, globalement d'accord avec ça, mais je veux dire que
j'ai pas l'opinion. Mais il s'agit quand même essentiellement d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir le regard des gens, de leur donner peut-être d'autres pistes de regard face aux images. Voilà. D'autres pistes de regard et d'interrogation. De les faire sortir juste de du c'est beau, c'est pas beau. De se confronter tout le temps à cette espèce de mystère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer après? Etc. C'est-à-dire, ça, c'est une autre manière de présenter le travail même de la collection. C'est de dire, au fond, les images qu'on a sont des instants. C'est la nature même de la photographie, hein, même si c'est une nature morte. Et nous, pour en faire du film, on doit arriver à les déployer sur l'axe du temps. Voilà. Donc les transformer, transformer les instants en histoire. Donc imaginer l'instant d'avant, l'instant d'après. Hein. Ou les créer. À peu près.
Je me permets, à propos de la photo humaniste, est-ce que le problème, si elle n'est pas là, c'est que c'est une terminologie qui classe en fait des photographes français?
Je pense pas. Je pense que c'est un autre truc. Déjà, quand je dis photo humaniste, c'est un peu ma façon à moi de désigner ça. Mais je pense que ça reflète tout simplement le fait que aussi bien Luciano que Quentin Bajac ont d'autres centres d'intérêt. C'est vrai que les choses elles se font aussi bêtement comme ça. On n'est pas des universitaires. Hein. On est rigoureux dans ce qu'on entreprend, mais on n'a pas un devoir d'exhaustivité. Ça, on pourra en reparler après, hein, comment on choisit les photos à l'intérieur de chaque film. Et donc, à un moment, c'est tout simplement c'est des choses qui leur parlent moins. Alors que moi, par exemple, c'est des choses qui peuvent m'intéresser. Mais après, si vous voulez, il y a un autre truc. J'ai fait une interview une fois avec Quentin, qu'on a fait ensemble pour Arte. Et c'était assez étonnant parce que on n'avait rien préparé. Et Quentin, qui a nourri quand même la collection avec toute son érudition, tout son savoir, à un moment, quand on arrive au cœur de la collection, parce que si vous voulez, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui est quand même le cœur du sujet, c'est que en fait, la collection se propose de faire des analyses formelles sur les images. C'est bizarre, hein, c'est un terrain que beaucoup de gens ont complètement déserté, de dire bon bah c'est une image photographique, c'est une image construite, c'est une image qui a sa cohérence, sa dynamique, sa force, comment c'est foutu de ça vient. Et donc pour moi c'est quasiment l'essentiel du travail qu'on fait sur les images. Hein. Et donc à un moment, Quentin, en tant que conservateur, explique que le problème des grands conservateurs photos, pas grand, modeste, et des conservateurs aujourd'hui n'est plus du tout dans l'analyse formelle. C'est un terrain qui ne les intéresse plus du tout. Que leur problème, c'est quasiment une espèce de travail sur la sociologie et la matérialité de la photographie, de la diffusion, des supports, etc. Et que l'analyse formelle est un terrain qui pour eux ne fait plus sens. Et il conclut en disant que c'est un terrain qui m'appartient à moi et qu'en ce sens, soit j'ai beaucoup de retard, soit j'ai beaucoup d'avance. J'ai trouvé très juste, très, très, très drôle. Alors, je dis moi, Juliette et Alain, pareil. Hein, c'est-à-dire le boulot qu'on fait une fois qu'on a les images et l'espèce de fil comme ça narratif, le boulot qu'on fait, c'est de regarder les images.
C'est manifeste, vous avez répondu déjà à un certain nombre de questions qui sont là que j'avais envie de vous poser. En particulier, ce qui moi m'a marqué dans les 4 films que j'ai vus, c'est précisément cette approche de l'image, comme vous dites, à la fois enfin, formelle, lecture de ce qu'on pourrait appeler les contenus de l'image, mais finalement une démonstration qui prend légèrement en biais les poncifs, mais qui sont aussi des croyances fortes dans la vérité, l'objectivité supposée, etc. Hein, donc l'indicialité de la photographie, et vous montrer que toute image est une image construite.
Oui, bien sûr.
Alors, construite par l'esprit, et c'est vrai que quand vous évoquez ce Français qui imaginait qu'on allait pouvoir reproduire
le commandant d'Arget.
Voilà. Mais je veux dire, au-delà du côté anecdotique, sans doute réel et drôle, c'est véritablement ça qui semble traverser l'ensemble des films. Alors, voilà, peut-être qu'on peut se demander comme ça. Voilà, je crois que c'est Artaud qui disait la pensée émet des signes. Quels sont les signes qu'émet l'image photographique? Autrement dit, comment pense la photographie?
Alors moi, par rapport à ça, si vous voulez, je suis pas fois de plus, je suis pas historien d'art, je suis pas spécialiste d'esthétique, etc. Donc moi, quand j'essaye de me poser cette question-là, au fond, ma réponse, elle est presque naïve. C'est je regarde comment c'est fait. Je regarde qu'est-ce qui opère de façon presque, disons, dans une espèce d'approche quasi-matérialiste. Après, j'arrive à la pensée, parce qu'il faut bien y arriver, mais dans un premier temps, j'ai une espèce de curiosité pour l'objet formel qui a été constitué par le choix et le hasard, hein, l'interaction des deux, d'un photographe, hein, quelqu'un qui est derrière l'appareil. Donc je m'intéresse beaucoup à ça. Et si vous voulez, mon intérêt pour ça, il se traduit toujours par le même truc. Je me mets devant l'image et j'essaye de comprendre pourquoi elle m'importe. Pourquoi je vais regarder cette image-là et pas l'image d'à côté. Et chez moi, souvent, la réponse n'est pas seulement dans les contenus, elle est souvent dans l'étonnement que j'ai devant les propositions formelles. Et là, j'arrive à des trucs tout cons. Hein. C'est-à-dire, moi, j'aurais pu, au fond, c'est des réflexions presque désuètes. Hein. J'ai un rectangle, et à l'intérieur du rectangle, j'ai des lignes et des densités, et elles s'arrangent d'une certaine façon. Et certains arrangements produisent des effets plus forts, probablement des effets mémoriels, que d'autres. C'est-à-dire certains arrangements marquent et d'autres ne marquent pas. Je suis passionné par ça, moi, en fait. Je suis passionné par ça parce que c'est le béaba du travail qu'on fait quand on tourne. On met la caméra devant une proposition quelconque, elles se valent toutes, au fond, aucune n'est moins intéressante ou plus intéressante qu'une autre. Et puis après, on essaye d'imaginer quelle configuration plastique va faire en sorte qu'on aura l'impression de voir quelque chose pour la première fois. Ça, c'est... Et donc, j'aime beaucoup ça, mais à un niveau pratiquement... ça fait bizarre de le dire comme ça, mais presque facteur cheval. Hein. J'ai pas fait d'études de ça. Enfin, je suis autodidacte et je pratique ça de façon purement naïve. Alors, ce qui est intéressant avec un truc comme la collection photo, c'est qu'on est à l'intersection, au fond, d'une très grande érudition et d'un regard extrêmement spécialisé qui est celui de Quentin Bajac, Luciano aussi, qui est un photographe, un collectionneur, etc. Et que nous, en tant que réalisateurs, moi, Juliette et Alain, on a une position quasiment de naïf. Voilà. On se met face aux images et on essaye de regarder en les découvrant. Vous savez, comme dans tous mes films, mais Archie ou tous les autres films, très souvent quand j'aborde une thématique comme ça, à part le fait que ça m'intéresse et que j'ai une passion personnelle pour ça, j'y connais rien, je découvre. Quand Quentin m'a dit on va faire un film sur les appropriationnistes, j'ai dit les appros quoi. Et après, et je pense pour Juliette et pour Alain c'est la même chose, en fait les films on les fait parce qu'on a l'énorme plaisir de plonger dans ces univers là et de découvrir des choses qu'on ne savait pas, et qu'après le processus du film consiste à restituer le plaisir qu'on a eu en apprenant.
Quelle est la matière de l'image? Je dis ça pas seulement en faisant référence à cette histoire qui est un peu maintenant impensif du numérique et de l'argentique, mais aussi de l'ensemble des images qui nous entourent, des téléphones portables, des écrans. Et est-ce que, justement, en travaillant sur la photographie et l'histoire de la photographie, au fond, la photographie avec un support, une fois, on va dire, développé et imprimé, est-ce que ça vous a permis peut-être d'appréhender un changement de donne, mais qui dépasse encore une fois le simple sujet argentique numérique sur le statut même des images?
Alors, c'est la réponse, elle peut se développer que dans le temps. Hein. Quand j'ai fait Nadar, par exemple, il était essentiel pour moi, c'était déjà l'époque où on travaillait beaucoup en vidéo, il était essentiel pour moi de filmer en 35 mm et d'appliquer de l'argentique sur du collodion. C'était pas de l'argentique, mais voilà, d'être chimie sur chimie. Quand j'ai commencé à travailler sur le photo, j'ai considéré que le problème n'existait plus pour moi. Ça me dérangeait absolument pas de travailler avec des fichiers numériques plutôt qu'avec des tirages. C'est aussi pour des questions très pratiques. Quand j'ai fait Nadar, j'ai énormément souffert parce qu'en réalité, les tirages originaux avaient tous viré, posé toutes sortes de problèmes et d'interrogations sur leur statut d'original, etc. Pour moi, ce problème, il a cessé d'exister dans ces termes-là. Alors maintenant, si je prends ça autrement, quand moi j'ai dû faire le passage du film au numérique, en tant que réalisateur, hein, à part le fait que j'ai gardé mes habitudes, c'est-à-dire quand je dis une seconde, je fais ça, c'est une seconde en film, en 16 mm, enfin sur Super 16, à part ça, j'ai toujours été totalement indifférent à la question. Je m'en suis toujours foutu. Bon, je regrette l'époque où je pouvais prendre un bout de péloche et regarder comme ça, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai toujours eu une position alors presque idéaliste en me disant le support n'a pas d'importance. Ce qui compte réellement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la pensée de l'image, quel que soit le support. Et cette énergie-là, cette pensée-là, doit être suffisamment forte pour pouvoir supporter n'importe quelle condition de projection. Donc j'étais assez indifférent à ça. Je dirais qu'aujourd'hui, je regarde les choses un peu autrement parce qu'on est encore rentré dans une autre phase qui est plus une question de support, qui est une question de statut même de l'image. Voilà. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que j'en pense. Je ne sais pas du tout ce que j'en pense. Je pense que le statut de l'image tel que je l'ai connu et tel que je l'ai aimé, tel que ça m'a décidé à faire des films, appartient au passé. Ça me paraît très évident. Je le repère et je le repère parfois avec beaucoup de plaisir dans le travail des jeunes réalisateurs que je vois autour de moi, ou même de moins jeunes. Et pour ma part, d'une certaine manière, ça ne m'importe pas dans mon propre travail. C'est-à-dire, je dis pas que je continue à faire tout le temps la même chose, mais je continue à rêver mes propres films comme je les rêvais avant. Voilà. À tort ou à raison, hein. Mais je vois bien que le régime a changé. On est rentré dans un régime où, au fond, l'image a cessé d'avoir de l'importance. En fait, c'est ça la vraie sensation que j'ai. C'est-à-dire que nous, on a été élevés dans une culture où il y avait une espèce de pyramide au sommet de laquelle il y avait le cinéma. La photo était juste un peu en dessous. Et on disait que c'était là. Le summum de toutes les pratiques artistiques de l'humanité aboutissait à cette image-là. Et aujourd'hui, je pense qu'à cause de l'explosion, hein, tout simplement, des processus de reproduction, l'image n'existe plus en tant qu'image. Hein. Je ne sais pas comment le dire. Hein. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire, alors, on pourrait dire à la Walter Benjamin qu'elle a plus son aura ou n'importe, mais de toute façon, elle n'a plus aucune importance. Voilà. Ça, c'est. Et je vois dans les trucs, dans le travail de beaucoup de jeunes réalisateurs que je vois et que je trouve passionnant, hein, parce qu'il y a une énergie filmique réelle dedans. L'énergie filmique, elle passe de plus en plus, non pas par les propositions formelles, mais par une espèce de transversale comme ça. Alors peut-être, déjà, moi, par ailleurs, j'ai toujours aussi pensé que les images n'avaient pas d'importance, que ce qui comptait, c'était la relation entre les images. Donc peut-être que je... Mais par rapport à moi, qui ai toujours vécu avec la culture, disons, d'une image construite, je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fait plus sens. Hein. C'est même pas qu'il faut résister sur ça, c'est que tout simplement, ces repères-là ont commencé à perdre de leur importance, ce qui est tout à fait...
Mais est-ce que c'est pas non plus une question de... ou aussi plutôt une question de vocabulaire? C'est-à-dire que dans l'écrit, on définit, il y a la lettre commerciale, il y a un certain nombre de vocabulaire qui permettent de hiérarchiser les images, et dans les images, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'image. Et est-ce que c'est pas ça qui fait ça?
Oui, mais moi je me pose pas la question, je me pose la question autrement. Je me dis, comment se fait-il que tant d'images que je vois, qui pour moi aujourd'hui sont des images dénuées de toute substance, arrivent à ce point à parler à plein de gens autour de moi, dont je pense qu'ils sont absolument pas plus bêtes que moi, ou et qu'ils ont la même énergie que j'avais quand je sortais de l'IDEC, par exemple. Donc je me dis, il y a quelque chose là qui a bougé, des signes qui se sont déplacés, que ce qu'ils y voient, eux, est ailleurs, n'est plus justement dans la structure formelle. Hein, c'est-à-dire la gestalt a fait son temps, et il y a quelque chose d'autre, je sais pas ce que c'est. Mais peut-être que c'est justement ce truc. Moi j'ai été monteur pendant 20 ans, et j'ai été monteur tout le temps avec cette idée qu'au fond, aucune image n'avait d'importance, que seul comptait la relation des images entre elles, la chaîne des images. Et peut-être que c'est là qu'on est aujourd'hui. Hein. Ce qui, moi, en tant que artisan, aimant bien un certain nombre de trucs, évidemment, ça me paraît curieux. Mais je le comprends, et j'ai beaucoup de plaisir. Hein. J'ai vu il y a 3 semaines parce que c'est pas uniquement un phénomène de génération. J'ai vu un petit film de Cavalier où pendant 10 minutes il raconte l'enregistrement de la musique d'ascenseur pour l'échafaud, et l'image, c'est sa main qui tient et qui manipule un filtre à café plein de vieux café. 10 minutes, magnifique, sans aucun des repères auquel moi je suis attaché, et pourtant produisant quelque chose de filmiquement tout le temps très tendu. Voilà. Donc là, moi j'y me retrouve. Hein, j'ai pas de. Alors, après, filmer avec un téléphone, ça m'est très étrange. Mais bon, regarde par exemple Alain, qui est de la même génération que moi, on a fait. L'idée qu'ensemble, etc. Lui, il s'en parle de ces outils-là avec une élégance et une insistance totale.
Sur la photographie des années 20 et 30, j'ai trouvé que ce basculement de l'horizon était, je crois, le levier finalement de l'ensemble du film, ouais, où on quittait les repères d'un espace, qualifions-le de naturel, donné par la nature, plus exactement, hein, finalement, avec, au fond, on est sur Terre, on regarde le paysage et on fait face à la mer ou à l'horizon, avec l'apparition concomitante, au fond, de la grande ville, avec son architecture propre, et finalement, un certain nombre de moyens techniques, en particulier liés au cinéma, qui vont aussi faire basculer donc la photographie. Alors, comment avez-vous opéré sur ce film?
Ben, pour moi, c'était... si vous voulez, tous ces films sont extrêmement difficiles, hein, en fait. Bon, donc, celui-là comme les autres. En même temps, c'est sans doute là où j'étais le plus en terrain familier. Moi, j'ai grandi en Tchécoslovaquie dans les années 50. Donc, Eisenstein, Vertov, c'était notre nourriture à partir de la maternelle. Donc tout ça, toute cette photographie expérimentale et moderne des années 20-30, c'est en grande partie des choses qui, pour moi, étaient mon école de l'image. Donc, je me retrouvais sur ce terrain-là. Après, ce qui m'a beaucoup touché, évidemment, dans le film, c'est que on est là avec des gens qui sont absolument persuadés que le regard peut arriver à décoder et à transformer le monde. Ça, c'était la grande utopie des cinéastes et des photographes d'avant-garde de cette époque-là. Ils pensaient qu'on pouvait voir autrement, mieux, et rééduquer le regard à partir de l'appareil. Ça, je trouvais ça absolument génial, cette proposition, hein, qu'on retrouve aussi bien chez Moulinage que chez Vertov. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé. Évidemment, après, c'est un gag, parce qu'on a l'impression que notre système graphique a été inventé exprès pour cet épisode-là. Hein.
Oui, ça c'est...
Qu'il est constructiviste.
Oui, hein. Oui, oui.
Voilà. Mais bon, ça, c'est, pour moi, ça a été quand même très, très touchant, parce que c'est quand même beaucoup de photographes auxquels je vouais depuis l'adolescence, disons, une espèce de culte comme ça, personnel. Et donc pouvoir rentrer, parce que, si vous voulez, quand vous faites un travail comme ça, vous entrez dans un rapport quand même très très intime avec les photographies sur lesquelles vous travaillez. C'est une espèce de dialogue qui est pas simple, hein, parce qu'à la fois il faut les secouer un peu, il faut jouer avec, et puis en même temps c'est le surmoi, hein, c'est les grands ancêtres. Alors c'est un film qui m'a beaucoup touché. Alors après, anecdotiquement, c'était assez rigolo, parce que une fois de plus, c'est une question de goût. Luciano, à un moment, en cours de montage du film, on a eu un visionnage de travail, et il m'a dit que j'étais en train de déséquilibrer le film à force de mettre surtout l'accent sur Rodchenko et les Tchèques, ce qui n'était pas faux. Il m'a dit, et le Bauhaus. Voilà, donc ça c'est... Voilà, c'était un film qui m'avait... Après, en même temps, quand je fais un film comme ça, même avec cette photographie qui compte énormément pour moi et que j'admire beaucoup, je résiste jamais au plaisir de déconner, de m'amuser avec. Donc, mais ça s'y prêtait bien aussi, ça s'y prêtait bien. Chaque fois qu'on commence un nouvel épisode avec un dispositif qui est quand même très déterminé, on a un moment d'angoisse, parce qu'on se demande si le dispositif va tenir le coup, si on peut le répéter encore une fois sans que ça se casse la figure, et sans que ça devienne pour nous-mêmes inopérant. Quoi. Alors, donc ça, c'était plutôt une belle expérience, avec, bon, après les difficultés d'usage. J'ai une constante dans mes films, aussi bien archi que photo. Ça, c'est la grosse différence, je pense, avec Juliette et Alain, même si c'est moi qui continue à diriger la collection et à écrire les commentaires. Mes films finissent toujours mal. Ça finit toujours dans le chagrin. Mais c'est vrai aussi en archi, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu celui que j'ai fait sur les primitifs.
Non, pas encore.
C'est une fin à sortir les mouchoirs et à pleurer. Et donc là, j'étais très content de finir avec le phoque, l'espèce d'atroce photo de Rodchenko, avec le phoque dressé dans un cirque. Ouais.
Alors, ben, vous parlez de votre humour, mais vous avez aussi réussi donc, à démontrer la grande part d'humour qu'il y avait dans la photographie conceptuelle. J'allais dire que c'est presque un peu une surprise. On avait tendance à la regarder justement, sans doute à cause de l'adjectif conceptuel qui lui est accroché, j'allais dire en pendentif, à avoir une image très sérieuse, et finalement, à part un des photographes, vous montrez que souvent c'est un principe ludique qui s'approche, on dirait, une sorte d'équivalent un petit peu au travail oulipien, hein, c'est-à-dire un travail à contrainte, que donc Mais j'aurais aimé que, aussi poser la question de cette qu'on va retrouver encore plus chez les appropriationnistes, mais de cet effacement relatif de l'auteur.
Oui, alors ça, au départ, donc, pour la photo conceptuelle, c'est presque l'inverse hein, des modernistes ou de la nouvelle objectivité allemande. Je rentre sur un terrain que je ne connais pas et que jusque-là, je ne connais pas tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, c'est presque aux antipodes de mes vraies préoccupations. Et à ce moment-là, ce que je découvre rapidement, ce que j'apprends, je découvre que je dois renoncer à mes repères habituels, parce que le propre de ces images, c'est effectivement l'évacuation de la notion d'auteur et d'une certaine manière la dévalorisation de toute notion de structure formelle. Hein, c'est la place du hasard, le geste, l'attitude, etc. Et je découvre tout simplement qu'il y a souvent dans ces images-là une énergie qui me plaît énormément. Et je m'accroche à ça, hein. je prends ça comme fil conducteur. J'avais déjà fait un peu cette expérience-là avec un film que j'ai fait sur Daniel Buren. J'ai fait un film en 2005 sur son installation Guggenheim.
D'accord.
Et quand on me l'avait proposé, j'ai dit Buren, ça m'intéresse pas du tout. Et j'étais assez étonné qu'on pense à moi pour faire un truc comme ça. Et la productrice m'avait dit, mais écoute, accepte au moins de dîner avec lui, comme ça tu verras. Je dîne avec lui et je me marre d'un bout à l'autre. Et je découvre que sous l'aspect comme ça, un peu dogme, un peu froid, un peu concept, je suis face à quelqu'un qui a un humour visuel énorme et je fais le film à partir de là et avec beaucoup de plaisir. Donc là, c'était un peu le même type d'expérience dans lequel je me suis bien retrouvé, mais au départ avec quand même ce problème, parce qu'après c'est des problèmes de fabrication, hein, il faut fabriquer les films. On a des outils, disons, là je ne parle pas des outils graphiques, mais je parle des outils narratifs. Et si un outil narratif principal c'est l'analyse formelle, que fait-on avec des images où les propositions formelles sont délibérément mises de côté, ou au sens classique, hein. Comment on fait pour s'emparer de ça, raconter ça et que ça marche, hein. C'est le même problème auquel a été confrontée Juliette avec le film sur les inventeurs. On est avec des photographies à l'époque de l'invention dont la plupart n'ont aucun intérêt en tant que proposition plastique en dehors de leur dimension comme ça historique, quasi fétichiste, hein, c'est la première fois, etc. Et comment faire avec un dispositif qui a été quand même conçu essentiellement pour se livrer à une lecture formelle des images, comment faire pour que le film ne se casse pas la gueule, hein. Donc avec les conceptuels, c'était un des problèmes auxquels j'étais confronté. Et puis l'autre problème compliqué pour moi, c'est que et qu'il y a un problème qu'on rencontre pratiquement avec tous les films, c'est que malgré tout on est sur des terrains qui ont déjà été pas mal balisés, documentés, et comment faire pour pas être immédiatement comme ça dans l'ornière, hein. Donc là, autant j'aime bien finir dans une sorte de chagrin, autant j'aime bien commencer avec des contre-pieds. Donc là, j'ai fait une blague pour commencer, juste pour que le film dérape dès le début et qu'on ne commence pas le truc traditionnel, quand est-ce que commence l'art conceptuel, etc. Ça. Après, ce qui m'a le plus étonné quand même, c'est Acconci. J'étais surpris par ça, parce que c'est vraiment, là aussi, l'idée de prendre un appareil et de le secouer, et que le secouage produise des images, ça m'est très étranger. Là, j'étais passionné par ce que je voyais, et aussi pas. Parce qu'en fait, alors, si je vais prendre du recul par rapport à ça, je dirais les conceptuels, ce qui me rapproche énormément d'eux, c'est que c'est des narrateurs. C'est-à-dire, en fait, la proposition visuelle est uniquement au service d'une histoire qu'on raconte. Je raconte que je vais cligner les yeux en marchant.
Ce qui est paradoxal, voilà. Avec au moins l'usage du terme conceptuel.
Oui. En fait, on devrait les appeler les narratifs. Mm-hmm. C'est, à chaque fois, ils proposent des petites histoires. Et ça, par contre, ça rejoint des trucs qui me passionnent, moi, en tant que réalisateur. Ça, évidemment.
Mais justement, ça nous ouvre la porte pour glisser vers le troisième film, le troisième épisode, celui sur les appropriationnistes, où effectivement, là, on se trouve en quelque sorte confronté à des images dont on ne connaît pas l'origine, la source, l'auteur, et que des gens s'approprient, donc viennent tenter de réinscrire, là pour le coup, de manière un peu forcée dans une histoire, ou construire une narration seconde, et en même temps, on a poussé au bout, même si c'est une autre ligne, on a poussé au bout la disparition de l'auteur, même s'il y a un artiste qui les reprend en charge. Et peut-être est-ce que c'est avec, disons, ce type de pratique qu'on rejoint la question qu'on se posait au tout début, à savoir de cette mutation du statut de l'image. Est-ce que c'est peut-être pas dans ce film-là qu'on verrait, en quelque sorte, l'image se fluidifier dans un travail formel, on est bien d'accord, mais où viendrait s'annoncer finalement peut-être ce changement de statut.
Son absence d'importance, hein, c'est ça. C'est possible. Alors, moi, c'est un film que j'ai vécu un peu de façon schizophrénique, parce qu'en fait, il y avait des choses avec lesquelles j'étais très à l'aise et d'autres avec lesquelles j'avais plus de difficultés. J'ai tout de suite été évidemment très à l'aise avec tout ce qui est... la réhabilitation de la photographie brute, hein, de la photographie amateur, etc. Parce que je trouve qu'il y a des choses absolument passionnantes dont on ne sait pas comment elles sont produites. Il y a le bouquin de Luciano Rigolini qui s'appelle What You See, sur lequel j'ai une séquence dans le film, où je regarde le bouquin et je me dis, c'est étonnant, on s'aperçoit à quel point la photographie amateur était en réalité imprégnée des mêmes préoccupations que la photographie dite noble. Et je dis ça à Luciano parce que je me dis, putain, mais je vois cette image, c'est un Rodchenko, je vois ça. Et il me dit, non, le principe du bouquin, c'est que c'est que des photos ratées. Et certaines, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'image d'une tête de chat au premier plan avec un arrière-plan fou. Je rêverais d'avoir fait cette image-là. Donc avec ce matériau-là, j'étais très très à l'aise. Là où je commençais à avoir évidemment un peu plus de problèmes, c'est avec Sherry Levin et avec Richard Prince, parce qu'on rentre dans des zones, des pratiques de l'art contemporain que moi ne m'intéresse pas. Hein, on est plus que dans du merchandising de haut vol, quoi. Donc, quel que soit le discours qui l'accompagne, ça me laisse assez froid. Alors, ce qui est drôle, c'est que les problèmes se sont ajoutés aux problèmes. C'est-à-dire, dans cette zone-là, qui pour moi était une zone de toute façon compliquée, on s'est heurté, ce qui nous est arrivé très très rarement dans la collection, on s'est heurté à deux refus. Sherry Levin nous a interdit d'utiliser ces images. Donc les Walker Evans, hein, ou les Sanders, pour des questions à mon avis juridiques. Et Prince, c'est encore une autre histoire. Donc Sherry Levin, ma réponse c'était, bon, bah, je vais faire comme elle, hein, je vais dédoubler les trucs et je vais dire, est-ce qu'il y a une différence. Donc j'ai fait en fait une séquence sur elle, sans rien montrer de ces images, mais en dédoublant une image de Sanders et une image, je crois, de Walker Evans. Simplement un processus comme ça, et un Rodchenko, et en expliquant quand même honnêtement pourquoi elle pensait que c'était intéressant. Et Prince, je me suis heurté à un autre problème. Alors ça, c'était vraiment un gag, parce que Prince nous a refusé l'autorisation de reproduire son cowboy. Okay. Je lui dis, pas de problème, je refais le cowboy. Et donc je trouve des vieux paquets de Marlboro et tout. Et puis, quand même, je me doute qu'il y a quand même une question que je dois poser à Arte. Je pose la question à Arte, mais il me dit, c'est pas question. La loi Evin interdit toute publicité pour les cigarettes, donc même des paquets des années 60, vous n'avez pas le droit de les montrer. Donc j'avais deux interdits, Prince et ça, et donc j'ai fait une séquence qui fait une minute et demie où on voit rien, il n'y a que les barres, où j'étais assez content parce que je me suis dit au fond, il y a une espèce de justice immanente qui fait que ces démarches d'appropriationnisme extrême que je trouve un peu vaines soient traitées par du vide. Ça me plaisait bien. Maintenant, voilà, après, c'est des films qu'on fait comme on fait n'importe quel film. Hein, c'est des œuvres de circonstance. Je ne sais pas si aujourd'hui je referais ça pareil, etc. Mais voilà, donc j'étais dans un truc un tout petit peu double avec des choses qui m'ont énormément touché. J'ai eu un tournage à la galerie Lumière des Roses où on a pu filmer des centaines et des centaines d'images d'amateurs que le galeriste est en train de trier. Et voilà, donc ça c'était absolument formidable. Après, les démarches très, à la fois très, très, très extrêmes, et je dirais dans une espèce de mondanité intellectuelle comme ça, ça m'a pas passionné. Comment j'ai fini ce film-là? Je me souviens plus.
Sur quoi j'ai fini?
Je crois que j'ai pas voulu finir sur Prince parce que je trouvais ça quand même trop triste. Mais je me souviens plus. C'est comme j'ai fait 5-6 films depuis.
Il y a eu
des souvenirs qui sont plus. Le conceptuel, je l'ai terminé avec Hugo Lind, ça j'étais absolument ravi.
Oui,
j'étais
oui,
absolument ravi. Mais les appropriationnistes. Après, là aussi, si vous voulez, quand même, j'ai les découvertes. Je ne connaissais pas, moi, l'existence de cette espèce de livre mythique américain Sullivan, et c'est le premier grand ouvrage c'est avec uniquement des photographies scientifiques ou de labo. Bon ben voilà, j'ai un blanc appropriationniste. La nouvelle objectivité allemande, c'est une histoire passionnante parce que on est un peu, c'est le troisième film que j'ai fait pour la collection, je crois. On est un peu au cœur du débat sur la relation au réel. Mm-hmm. On commence le film avec les Bécher, enfin surtout lui, mais disons on dit les Bécher, donc les Bécher, avec une espèce de volonté ultra documentaire, orthogonalité parfaite, pas d'anecdote, plan large, fond neutre, on fait des photos en hiver, donc il n'y a pas de nuages dans le ciel, etc. Et on finit le film avec des élèves de Bécher qui font de la photographie mise en scène à une échelle qu'on n'arrive pas à imaginer. Donc j'ai beaucoup aimé cette courbe qui, d'une certaine manière, raconte bien toute l'histoire de la photographie. C'est qu'il n'y a pas en réalité de différence entre les deux. C'est la même chose. Et que, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et puis bon, j'ai trouvé absolument... de nouveau, j'ai fait des découvertes, pas tellement Gursky, parce que... Gursky, je connaissais déjà, mais encore, je me suis réconcilié avec Gursky en faisant le film. Mais Thomas Roof, que je connaissais pas bien, et je trouvais formidable, qui en fait, qui aurait pu être aussi dans la photographie conceptuelle,
oui.
Tellement il est drôle tout le temps.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors du coup, il y en a un autre qu'on aurait dû faire et qu'on n'a jamais fait, qui est ce qu'on appelle en réalité la nouvelle objectivité allemande, c'est-à-dire la nouvelle objectivité Neue Schärfe des années 20, hein, qui est le rejet de l'expressionnisme, etc., qui est un moment qui me passionne dans l'histoire de la photographie. Et puis, j'ai beaucoup aimé, évidemment, faire aussi le film sur les primitifs, parce que je retournais un peu à mes amours nadariennes. Alors là, c'était un truc assez compliqué, parce qu'on avait fait le pilote avec la photographie surréaliste. Et la photographie surréaliste, c'était un objet absolument idéal pour les bars, le travail graphique, le déconnage, etc. Et donc, quand je commence les primitifs, c'est-à-dire je dois appliquer le même système sur la photographie du milieu du 19e, je ne savais pas si ça allait marcher. Je ne savais pas si cet outil-là qu'on avait fabriqué était capable de gérer ce type d'image. Donc là, j'étais très content de voir... Et de découvrir aussi cette formidable histoire entre les deux écoles de la photographie de part et d'autre de la Manche, c'est-à-dire l'école française qui est une école réaliste et obsédée de réel, et l'école anglaise qui s'en fout éperdument et qui invente la mise en scène et le montage photographique en 1850, hein, 50-60. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais bon, tous ces films-là, c'est des films extrêmement difficiles à faire. Donc si on évidemment à un moment on rentre dans un rapport complètement passionnel, hein. Sinon on ne le ferait pas. Ce que j'ai demandé au graphiste avec laquelle j'avais commencé à discuter, qui est une des figures montantes de la jeune animation française, qui est un type formidable, qui s'appelle Pierre-Emmanuel Guette, réalisateur de films d'animation, un créateur de films d'animation. J'ai dit à Pierre-Emmanuel, je voudrais qu'on figure dans l'espace de l'écran un outil table et agrandisseur. Ça a commencé comme ça, la réflexion. Et en fait, la table, c'est devenu notre système de... Enfin, la table et l'agrandisseur, c'est devenu notre système de barre. Au départ, c'était l'idée, c'est un outil. Ça reste dans le générique, en fait. Parce qu'à un moment, on a épuré le truc progressivement. Et à un moment, j'ai eu la nostalgie de la première version qui était plus anecdotique, et on en a fait le générique début de la collection, où on voit l'appareil photo et l'agrandisseur. Donc au début, c'était ça. L'idée était de créer quelque chose qui puisse opérer. C'est-à-dire, la règle avec ce dispositif-là, c'est que c'est un dispositif de travail. Les barres arrivent pour travailler. C'est pour ça, par ailleurs, qu'on a toujours des problèmes, parce qu'elles arrivent pour travailler, et après, quand elles doivent partir, elles ont fini leur boulot, donc c'est toujours un peu difficile à gérer. On aurait plutôt envie de les virer très vite, quoi. Les effets ne doivent jamais exister s'ils ne sont pas justifiés par des opérations comme ça, disons presque physiques. Et puis, ils doivent être suffisamment transparents pour que ça ne mange pas l'image photographique. C'est ça les principes. D'ailleurs, entre le pilote, alors ça paraît futile, hein, mais on passe énormément de temps sur ça, entre le pilote et le film suivant, on les a amincis. Sur le pilote, elles étaient assez grosses, comme ça, un peu genre, m'as-tu vu ? Et on les a amincis. Et puis bon, moi après, Juliette et Alain, ils gèrent le truc un peu différemment. Et on a beaucoup de débats autour de ça, hein, surtout Alain qui est un grand, grand imaginaire fantaisiste. On a eu souvent des discussions autour de ça où je lui disais c'est très beau, mais c'est pas utile, donc on va l'enlever. Et là, ça commence évidemment. Mais on passe beaucoup de temps à discuter justement de l'économie du dispositif, de faire en sorte qu'il ne prenne pas le devant, qu'il reste à sa place et qu'il travaille. C'est un outil de travail, quoi. Et bon, pour moi, une fois de plus, c'est extrêmement important que des films comme ça, c'est-à-dire qui tirent une grande partie de leur énergie d'œuvres préexistantes, qu'ils créent aussi leurs outils propres. Parce que sinon, on est juste dans une espèce de parasitisme. Voilà. Et voilà. Mais juste pour finir avec ça, Nadar, que j'ai fait en 95, j'avais déjà un système identique, sauf qu'on le faisait pour de vrai. J'avais fait construire une espèce de faux margeur par des décorateurs, un cadre de bois avec quatre plaques de métal qui pouvait bouger sur des charnières, se rabattre et découper n'importe quel type de champ. Et j'ai fait le film entièrement comme ça, avec des plaques de fer qui tombent sur les images et qui cadrent exactement ce que je veux cadrer. Ce qui fait que quand Pierre-Emmanuel est venu me voir avec la proposition finalement épurée des bars et qu'il m'a dit « j'espère que tu vas pas trouver ça trop radical », j'ai dit « mais tu sais… » Voilà, enfin, anecdote.
Donc, qu'est-ce que c'est pour vous un appareil? On dit appareil photo, voilà, caméra, vous les utilisez depuis longtemps, vous avez bien montré, en tous les cas, dans le film sur les années 20 et 30, précisément cette croyance. Est-ce que vous, pour vous, à la fois le terme, les objets eux-mêmes, les appareils eux-mêmes, ont une fonction, signification? Est-ce qu'il y a un enjeu autour de ça, précisément, oui, oui. Dans notre manière, au-delà d'appréhender les images, de voir les choses?
C'est-à-dire, pour moi, il y a un enjeu qui est un enjeu constant, puisque je travaille tout le temps avec des appareils. Ici, quand je monte, je monte avec une machine. Quand je fais de la photo, j'ai mon appareil que j'aime. Je filme par moi-même, donc, mais voilà. Mais j'ai un enjeu constant qui est que je veux que l'appareil soit à ma main, qu'il soit transparent d'une certaine manière, et qu'en même temps, il me résiste. Voilà, ça c'est les deux trucs qui m'obligent tout le temps à comprendre que c'est pas des opérations, c'est pas juste sentir et produire, c'est quelque chose qui est plus en tension. Donc par exemple, quand j'utilise des appareils de montage virtuel, je continue à les utiliser dans une perspective relativement classique. Je fais peu de coupé-collé. Il y avait une époque où j'allais jusqu'à détruire les anciennes versions des montages en me disant que si ça valait quelque chose, je m'en souviendrais, et si ça valait rien, c'était pas la peine de le récupérer. Quoi. Donc je pense, voilà, je suis assez attaché à l'idée qu'il doit être transparent, au sens que je ne dois pas y penser d'une certaine manière, hein. J'ai pas envie de m'occuper de l'appareil. Par exemple, là on monte avec des systèmes à vide qui sont très transparents, parfois on monte sur des Final Cut qui ne sont pas du tout, je déteste ça. Et qu'on soit obligé de s'occuper de gérer les problèmes de la machine, je vis ça assez mal. Et en même temps, qu'il y ait tout le temps cette espèce de truc... l'appareil ne fait pas les images, il ne fait pas les films. Hein. Mais d'une certaine manière, j'ai une position un peu idéaliste par rapport à ça. Hein. Et parfois, en exagérant, je me dis, et si je devais filmer avec un téléphone, je m'en foutrais. Le film doit être plus fort que ça, il doit être suffisamment fort pour que ça ne soit pas important. Quoi. Après, c'est pas... Dans Final Cut, on doit gérer des problèmes qui ne sont pas spécifiques au travail qu'on est en train de faire. Donc on s'occupe de la bécane. Et donc ça, c'est une contrainte que je trouve insupportable. En photo, par exemple, j'ai un Ricoh, moi, un GXR. Et j'ai retrouvé, depuis 4 ans, le plaisir de faire le point à la main. Et je suis obligé de faire le point à la main. J'ai des montures M dessus, des Leica, pas de mise au point automatique, et j'ai retrouvé le plaisir de cette difficulté-là, du temps que ça prend, de ce que ça suppose comme réflexion sur l'image pendant qu'on fait l'image, etc. Et je ne retournerai jamais à la mise au point automatique à cause de ça. Donc voilà, là c'est une résistance qui pour moi est complètement productive, parce qu'elle m'installe à l'intérieur du processus de fabrication de l'image. Que j'aime énormément. Hein. Quand on fait le point à la main, ça prend un peu plus de temps, c'est-à-dire en gros, ça se traduit en une demi-seconde, mais c'est une demi-seconde ou une seconde d'une richesse de concentration sur l'image. Et Et j'aime bien louper des trucs. Je trouve que louper des trucs, c'est... Je sais plus qui disait ça. Plus on en loupe, moins on a appris à trier après.
Donc voilà, c'est... Mais bon, là, je suis en photo. Moi, je suis un amateur total. Alors, ce qui est drôle, c'est que mon prochain film, que là, je suis en train de commencer à fabriquer pour Arte, pour une unité documentaire, est une adaptation d'un roman de Sebald qui s'appelle Austerlitz, et où la photographie joue un rôle énorme, aussi bien à l'intérieur de l'histoire que dans la forme. Donc, je continue avec la photographie. Je ne sais pas comment je vais faire. Enfin, mais c'est un film, quand je travaille dessus, quand je pense dessus, je me dis que c'est un film qui est à moitié construit sur l'amour des images fixes et sur l'importance des images fixes. Je ne sais pas si vous avez revu le « Si j'avais quatre dromadaires » de Marker, quand ça a été projeté au centre, là, il y a un mois, 44 minutes de photographie fixe, sublime, sublime. Ça, je ne sais pas s'il fait partie de la réédition, la Marker, mais ça, j'étais soufflé. Bon, on connaît La Jetée, tout ça, bon, ça c'est qui est un film presque baroque. Là, c'est juste des photos comme ça. Magnifique. Voilà.
Dans notre tradition culturelle, on a cette vieille histoire qui est un peu un crin-crin, mais qu'on répète à satiété, la question de l'interdit des images, interdit biblique, interdit chrétien, interdit musulman. Nous, on se situe, on fait partie de cette culture,
oui.
Hein, et on se situe, on va dire, à l'autre bout, je ne sais pas si c'est la fin. On a évoqué juste le moment donc, du refus de deux photographes de laisser les droits pour ouais. travailler avec leurs images. Voilà, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui malgré tout persiste même loin dans cette mémoire culturelle, ou finalement une sorte de non-sujet?
Non, c'est un vrai sujet. Après, où est-ce qu'il se situe, de quoi est-ce qu'il parle, ça j'aurais du mal à le dire vite. Je dirais, moi, il y a des choses dont je pense qu'elles ne devraient pas être représentées, moi personnellement, voilà. Ou si elles le sont, que cette représentation au fond ne fait que dégrader et la chose et la représentation.
Comme donc, par exemple, ouais,
on peut prendre deux exemples de. L'humiliation, par exemple, devant l'appareil, je supporte très très mal. La pornographie, alors après, c'est un vaste débat sur quelles sont les frontières, quelles sont les limites, mais oui, mais parce que c'est la même chose. Hein. Et puis après, il y a tout ce débat. Alors moi, j'ai été confronté à ça quand j'ai fait un film qui s'appelle La langue ne ment pas. Qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, etc. Et donc là, je ne sais pas, parce que j'ai sans doute changé de position. Je dirais, au fond, peut-être qu'aujourd'hui, je pense que le problème, il est de toute façon tout le temps de pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on veut montrer à travers l'image. Et que c'est plus ça que le contenu intrinsèque de l'image qui est en cause. Voilà. Mais bon, après, c'est aussi des questions de génération, de culture.
Si vous avez changé de point de vue,
j'ai changé de point de vue parce que.
Quel type de sujet ?
C'est un film qui raconte, qui est une adaptation des journaux de Victor Klemperer, donc c'est un juif allemand qui survit sous le nazisme. Et qui tient dans son journal la chronique de sa vie quotidienne sous le nazisme et en même temps se livre à une étude pionnière sur la langue nazie.
Oui, voilà.
Et à un moment, j'ai une archive qui a été tournée par la Gestapo dans un petit camp de regroupement à côté de Dresde, qui est un camp que Klemperer décrit très précisément, puisque toutes ces connaissances si ils sont enfermés en attente de partir pour Auschwitz, lui-même étant un des faisant partie de la petite dizaine de ceux qui ont échappé encore au processus. Et j'ai mis beaucoup de temps à me résoudre à utiliser le document qui montre des choses très 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 anodines et en même temps d'une très très grande violence. J'ai mis beaucoup de temps et finalement moi je suis arrivé de façon assez naturelle parce que le film le demandait à ce moment-là, que c'était juste de le montrer, de pas le cacher. Voilà. C'était vraiment mais ça a été un long débat, d'autant plus que j'avais au même moment dans la même partie du film une bande son qui est un discours que Himmler a prononcé en 1943, qui est le discours où il fait publiquement devant un parterre de généraux SS état du processus d'extermination, que les deux éléments étaient dans la même zone du film. Et j'ai eu même une version où je mettais pendant 2 minutes le discours d'Himmler sur fond noir et après l'archive muette. Et j'ai eu un visionnage avec Thierry Garrel d'Arte à cette phase-là du montage. Il a rigolé, il m'a dit maintenant il faut que tu fasses ça. Et donc j'ai mis le discours d'Himmler sur l'archive. Voilà. Donc voilà, mais ça a été un processus compliqué. Compliqué. Qu'est-ce qu'on montre? Quelle est la limite? Et j'ai toujours haï le. Non pas nous pour l'avoir monté, mais le mec qui a pu filmer ça. Hein. Qui était un ingénieur de Zeissicon.
Et est-ce que justement, pour conclure, cette mutation un petit peu du statut de l'image ou des images ne passe pas, vous avez dit, finalement, plus rien n'a d'importance, par cette dilution de ce qu'on pourrait appeler les formes de respect, d'inhibition ou d'interdit, qui est un mot qui a mauvaise presse, mais qui finalement vient signifier des zones dans lesquelles, j'allais dire, le passage au visible, au visuel, peut être considéré comme non fondamental, non essentiel.
Ouais, mais moi, je ne me pose pas la question de façon théorique, au fond. Moi, je me la pose toujours de façon pratique. Je me dis, qui est le mec qui a pu filmer ça et être content d'avoir filmé, quoi. Et c'est juste... Pour moi, la ligne de partage, elle est vraiment là sur avec qui on a envie d'être ou ce qu'on a envie d'être. Hein. C'est pas un problème théorique, en fait. C'est qui on est quand on fait une image et est-ce qu'on est encore... oui, c'est ça. Est-ce qu'on est encore à peu près... respectable hein, et respectueux ou humain, hein, je ne sais pas comment dire.